On va accueillir un autre invité pour parler du prochain sujet. Vous pouvez rentrer. Merci beaucoup et on vous libère. Merci d'être passé. Merci Richard Verli qui nous rejoint, journaliste, correspondant France et Europe pour le média suisse Blick et auteur du livre Le bal des illusions aux éditions Grasset. Merci à vous de nous rejoindre. On va parler tous ensemble de ce qui s'est passé aujourd'hui avec les insoumis, les insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan qui ont été entendues dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme après des propos liés à la guerre entre Israël et le Hamas. Des convocations qualifiées de censure par la France insoumise. On écoute d'abord Rima Hassan à peine sortie de sa convocation à la police.
Ça s'est très très bien passé. J'ai été questionnée sur notamment l'interview du média Le Crayon qui n'a pas été mise à disposition des journalistes du grand public. Je rappelle que nous on avait engagé une procédure bien avant cette convocation pour faire un constat d'huissier pour pouvoir récupérer ces rushs et la mettre à disposition de tout le monde. Dans le vrai et faux, il y a une question qui m'est posée et qui n'a pas été relayée par ceux qui ont tenté quand même de porter atteinte à mon engagement sur la qualification vrai et faux. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Je réponds vrai. Et cet extrait a été complètement coupé de ceux qui ont partagé l'extrait de cette interview. Donc là, ça a été une occasion en réalité de faire une mise au point. Et puis on va continuer cette mise au point sur cette interview puisqu'on va très prochainement partager le constat d'huissier sur l'entièreté de mes propos.
Voilà, Rima Hassan qui se dit plutôt satisfaite parce que ça lui a permis de s'expliquer. On est avec Manuel Bompard. Merci d'avoir accepté notre invitation, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Merci à vous. Vous êtes choqué, vous, par cette convocation ?
Bien sûr, je suis choqué par cette convocation et de manière générale, je suis choqué par ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs jours en France, c'est-à-dire un climat de répression, une volonté de museler, de criminaliser les oppositions, qu'elles soient d'ailleurs politiques, syndicales ou associatives, puisqu'on a assisté ces derniers jours à l'interdiction d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan dans une université. On a assisté à la convocation de Rima Hassan et de Mathilde Panot devant la police antiterroriste. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, pas pour des propos en ce qui concerne Mathilde Panot par exemple, c'est pour un communiqué de presse du groupe parlementaire de la France Insoumise qui a été publié le 7 octobre. Et toutes les personnes qui liront ce communiqué verront à quel point il est tout à fait loufoque de considérer que ce communiqué correspond à une quelconque apologie du terrorisme.
Je
suis choqué aussi par le fait de voir que des syndicalistes ont été condamnés. Un syndicaliste a notamment reçu un an de prison pour un tract de soutien au peuple palestinien.
Je rappelle donc le communiqué en question. C'est la raison pour laquelle Mathilde Panot a été entendue, publié le 7 octobre. Et il avait fait polémique ce texte parce qu'il mettait en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes, et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Ça, c'est pour Mathilde Panot. Et concernant Madame Hassan, elle a été convoquée parce qu'elle a donné une interview au média Le Crayon, et dans un extrait qui a maintenant été supprimé, elle dit qu'il est vrai que le Hamas mène une action légitime. C'est ça les raisons pour lesquelles elles ont été convoquées. Pour vous, c'est totalement injustifié?
Non, mais d'abord sur la question du communiqué du groupe parlementaire de la France Insoumise, vous pouvez, si vous voulez, ne pas partager la vision qui est la nôtre de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais vous ne pouvez pas dire qu'un communiqué dans lequel nous disons que nous pleurons l'ensemble des morts, l'ensemble des victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, constitue une forme d'apologie du terrorisme. Là, on est en dehors du cercle de la raison. C'est tout à fait absurde, c'est tout à fait loufoque. Quant à Rima Hassan, elle a dit dans l'extrait que vous avez passé à cet instant que sa convocation était sur la base d'une interview qui a été une interview tronquée, puisqu'il y avait précisément une question dans laquelle on lui demandait comment elle qualifiait les actions du Hamas, et elle avait rappelé à l'époque qu'elle les avait qualifiées d'actions terroristes. Donc comment, dans ce cas-là, peut-elle faire l'apologie de ces actions? Tout ça est ridicule, et ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de répression des voix qui tout simplement se lèvent pour demander la paix, pour demander l'arrêt des massacres qui sont en cours aujourd'hui à Gaza. Et ça s'inscrit aussi dans la lignée, et je pointe la responsabilité du gouvernement, et en particulier du ministre du Garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, qui en date du 10 octobre a publié une circulaire qu'il a envoyée à l'ensemble des procureurs de la République, dans lequel il invite à poursuivre pour apologie du terrorisme, y compris des propos qui sont tenus dans le cadre politique. Et donc on en est là aujourd'hui, 6 mois après, en pleine campagne des élections européennes, avec des candidats aux élections qui se retrouvent devoir aller répondre de leurs opinions politiques devant un commissariat. Ouais. C'est inédit dans la Ve République
qu'une
présidente de groupe parlementaire soit obligée de rendre compte de ses opinions dans un commissariat.
Manuel Bompard, justement, vous avez interpellé le garde des Sceaux sur ces questions-là. Éric Dupond-Moretti qui vous a répondu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on l'écoute.
Des gens qui se sont sentis victimes ont déposé plainte. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Et voyez-vous, il y a des jours, on préférerait être sourd que d'entendre ce que l'on entend. Vos amis à vous, ce sont les mollas, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte.
Voilà, lui dit, la justice a été saisie, elle va faire son travail. Vous faites confiance en la justice ?
Non, mais d'abord, monsieur Dupond-Moretti ment dans sa réponse, pour une raison simple, je viens de vous l'indiquer à l'instant, c'est que Monsieur Dupond-Moretti est signataire d'une circulaire en date du 10 octobre, vous êtes journaliste, vous allez pouvoir aller vérifier cette information,
oui.
Circulaire qui a été adressée à l'ensemble des procureurs de la République. Monsieur Dupond-Moretti publiait d'ailleurs sur Twitter à la fin
une
du mois d'octobre
pardon, une photo je vous coupe un instant pour je précise juste une circulaire, donc effectivement le 10 octobre pour apporter une réponse pénale rapide aux propos vantant les attaques du Hamas. Voilà la circulaire qu'il a signée.
Non, vous lisez cette circulaire de manière biaisée. Vous verrez que si vous la lisez en entier, il est indiqué qu'il invite à multiplier les actions des procureurs pour apologie du terrorisme. À tel point que le président de la Commission nationale des droits de l'homme a écrit un courrier à Monsieur Dupond-Moretti ce week-end. Ça aussi, vous allez pouvoir le retrouver. Dans ce courrier, le président de la Commission nationale des droits de l'homme dit, Monsieur Dupond-Moretti, il faut que vous preniez une autre circulaire parce que clairement, votre circulaire du 10 octobre, elle produit aujourd'hui des entraves à la liberté d'expression. C'est pas moi qui le dis, Emmanuel Bompard. C'est le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Peut-être que si Monsieur Dupond-Moretti ne veut pas m'écouter moi, il peut au moins écouter cette personne responsable d'une autorité qui est une autorité indépendante. Quant à la fin de la réponse de Monsieur Dupond-Moretti, je veux dire à quel point elle
est
scandaleuse.
Quand il parle de vos amis, les mollas.
Excusez-moi de soutenir. Non, mais c'est scandaleux. Accusez-moi de soutenir les mollahs iraniens alors que je fais partie d'une formation politique qui a participé à de multiples initiatives pour défendre notamment les personnes qui sont menacées de mort en Iran, qui encore dimanche dernier participaient à une manifestation sur ce sujet. Je fais partie d'un groupe parlementaire dans lequel des députés insoumis ont parrainé des personnes qui étaient condamnées à mort. Où était Monsieur Dupond-Moretti à ce moment-là? Donc je trouve que de la part du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, venir diffamer et calomnier une force d'opposition en plein dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est scandaleux, c'est pas à la hauteur de ses fonctions, et je pense que Monsieur Dupond-Moretti n'est clairement pas à la hauteur des fonctions qui sont les siennes en tant que ministre de la Justice.
Christophe Barbier sur le plateau avait envie d'intervenir.
Oui, parce qu'il y a deux choses que vous avez dites, Monsieur Bompard, qui me semblent inexactes. Jean-Paul Delescot, le patron de la CGT du Nord, qui a été condamné pour un tract qui disait ceci: les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis samedi, c'est-à-dire le 7 octobre. Elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. C'est pour ça qu'il a été condamné. On ne peut y voir clairement qu'une seule analyse. Israël est responsable du 7 octobre, quelque part bien fait pour Israël. Vous ne pouvez pas dire que c'est anodin et que cette condamnation est illégitime. Par ailleurs, le communiqué du groupe
c'est
La France Insoumise auquel vous faisiez
allusion.
Attendez, je termine et je vous rends la parole sur ces deux points. Ce communiqué parle, après le 7 octobre, c'est un communiqué qui est publié très vite dans la matinée ou la journée du 7 octobre, ce communiqué dit les forces armées palestiniennes. Vous savez bien ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir dit le Hamas, groupe terroriste, dans ce communiqué. Et vous ajoutez qu'il y a des occupations israélienne en mettant Gaza dans ce communiqué. Depuis 2005, il n'y a plus de troupes israéliennes à Gaza. C'est cela aussi qui était reproché et que Mathilde Panot a sans doute pu éclaircir au commissariat.
Non mais monsieur Barbier, que vous ne partagiez pas les positions qui sont les nôtres, c'est votre droit, mais sur les deux exemples que vous venez de donner, en quoi cela constituerait-il une forme d'apologie du terrorisme? Est-ce que dans le tract que vous avez cité ou est-ce que dans le communiqué de presse que vous êtes en train de lire, est-ce que il y a quelques propos qui glorifient les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre?
C'est ça l'apologie du terrorisme, ce n'est pas glorifier.
Vous avez le droit de ne pas partager. Ah bah si, bien sûr, monsieur Barbier, bien sûr que c'est ça. Donc si vous avez le droit de pas être d'accord avec notre analyse, j'ai vu sur le plateau de BFM il y a quelques semaines que vous disiez qu'il n'y avait pas de colonisation en Cisjordanie, contrairement d'ailleurs à ce que dit le droit international.
J'ai dit que les Israéliens parlaient de la Judée-Samarie et pas de la Cisjordanie.
C'est votre point de vue. Et moi, je ne vous menace pas de vous poursuivre devant les tribunaux pour cela, vous voyez. Et pourtant, je suis en radical désaccord avec vous.
Sur la
formule un peu ambiguë.
Sur la définition justement, l'apologie du terrorisme, l'avocat sur le plateau. Quelle est la définition ?
Il y a une définition légale et puis c'est l'article 421-2-5 du code pénal qui le définit. C'est vrai que cet article-là ne définit pas ce qu'est le terrorisme. Il y a un vide juridique. Et effectivement, je pense qu'il faudrait que l'Assemblée nationale précise ce qu'est le terrorisme. Alors, si je vous demandais, Julie, qu'est-ce que le terrorisme ? Et à Perico Legas, on peut avoir des définitions un petit peu différentes et c'est vrai que le mot n'est pas défini, malheureusement. Il devrait être défini. On peut définir ce qu'est un acte de terrorisme, et donc ce qui est plus précisément l'infraction, c'est là-dessus qu'est souvent sont souvent
attaqués. Disons qu'ils professent une idée par la terreur, pour simplifier très schématiquement.
Je suis d'accord, mais on pourrait le définir très précisément, ce qui éviterait certaines actions dans la Cour européenne des droits de l'homme, et ce qui éviterait d'ailleurs certaines condamnations de la France. Ce qu'a rappelé Dupond-Moretti, et je vais me permettre de faire son avocat ce soir, moi je trouve qu'au contraire, non seulement il a fait très bien son travail de garde des Sceaux, il a rappelé dans cette circulaire, voilà ce qu'il rappelle exactement dans la circulaire, que il fallait poursuivre les propos vantant les attaques ou en les présentant comme une légitime résistance à Israël. Ce qui paraît parfaitement fondé, telle la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas. Il précise simplement au procureur dans quel cadre il serait l'infraction concernant le terrorisme serait constituée. Et je pense qu'effectivement, il est dans son rôle.
Et légitimer, dire les réponses qu'elles ont provoquées, qu'Israël a provoquées, c'est légitimer l'action du Hamas.
Et force armée palestinienne.
Et force armée palestinienne.
Ça veut dire que c'est une armée légale qui défend une cause de juge.
Alors, ça légitime, monsieur Bompard.
La réponse de Manuel Bompard.
D'abord, ce ne sont pas mes propos. Mais non, ce n'est pas faire l'apologie d'actions terroristes. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas dire ça. Quant à monsieur Dupond-Moretti, il a clairement envoyé des consignes très claires au procureur. Monsieur l'avocat qui est sur le plateau, dont je ne connais pas le nom, défend monsieur Dupond-Moretti, c'est son droit. Mais il ne peut pas ignorer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dit « Attention, il y a un problème avec la circulaire que vous avez produite le 10 octobre, parce qu'elle produit des procédures qui sont des procédures abusives et que ça se traduit par des entraves à la liberté d'expression. » Et il demande dans ses courriers, dans ce courrier que vous pouvez consulter, il demande à monsieur Dupond-Moretti de prendre une nouvelle circulaire pour préciser les choses, pour que justement le type de convocation abusive comme celle que subit madame Panot ou madame Hassan s'arrête immédiatement. Donc vous devriez quand même l'entendre. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les propositions qui sont celles de la France insoumise. Vous avez le droit de les critiquer, de les contester. Mais vous ne pouvez pas dire que ça correspond à de l'apologie du terrorisme. Et vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit désormais d'en rendre compte devant les commissaires de police ou devant les tribunaux.
Il y a deux points différents dans cette problématique. Il y a le fond du problème et le débat avec la France insoumise sur les propos. Mais moi, je considère que des parlementaires convoqués dans un commissariat, ça me pose quand même un problème.
Voilà. Alors justement, j'allais y venir.
Voilà, là, effectivement, je comprends que M. Bompard est à malaise et que ces parlementaires aient légitimement pu faire remarquer que c'est quand même inédit que pour des opinions politiques, fussent-elles contestables ou manquant de précision, ou étant orientées dans le mauvais sens, on soit convoqué devant un juge d'instruction comme, quelque part, un délinquant.
On n'est pas convoqué devant un juge d'instruction. La police permet, justement, ceux qui sont incriminés par le débat public, de s'exprimer. Vous dites, monsieur Bompard, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais moi, j'ai entendu Rima Hassan dire ce matin, j'ai enfin pu m'exprimer. Quelque part, venir sur ce terrain de la justice, de l'enquête, au dehors du tohu-bohu politique et médiatique, c'est vous donner l'occasion de vous exprimer. De la même manière qu'à Lille, quand il y a eu la décision de l'université pour des raisons d'ordre public de ne pas laisser la réunion se faire, Il y a eu des expressions devant les caméras, des leaders, il y a eu un rassemblement en plein air. Est-ce que vous ne renversez
mais
pas trop facilement
est-ce ça que, est-ce qu'il n'y a pas un problème, mais là, vraiment d'un point de vue philosophique, à se dire que cette explication qu'on devrait avoir dans le cadre des débats publics, apaisée, ne devrait pas se faire dans le cadre d'un commissariat quand il s'agit ici de candidate à la députation européenne ou d'une
Le débat public n'est pas apaisé, notamment parce que la France Insoumise à l'Assemblée a développé une stratégie qu'elle assume de tohu-bohu, de ce que Darmanin appelle la bordélisation, c'est-à-dire au-delà, de réchauffer
au-delà,
le débat.
Mais non, mais en fait, au-delà même de la stratégie, c'est-à-dire que en fait, poser la possibilité d'avoir un débat apaisé, constructif, je ne sais même pas si cela est possible, autour de ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui, et se dire qu'on peut poser la nécessité de... Que se passe-t-il à Gaza? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Voir ça sur le temps long, au-delà de ce qui s'est passé du côté de la France insoumise, est-ce que ça devrait être posé dans les commissariats? Est-ce que ça ne dit pas aussi un échec collectif de notre capacité, en fait, à débattre de cette question d'un point de vue strictement politique et notamment de politique internationale? On voit les débats qu'il y a à l'ONU, on voit les débats qu'il y a à la Cour de justice internationale autour du terme de génocide, et on revient sur, par exemple, pardon, c'est ma marotte, mais moi j'ai affaire, par exemple, à des gamins en atelier qui posent des questions, en fait, de cet ordre, qui cherchent à comprendre et qui, en se tournant vers le débat public, disent, on est incapable de donner à voir quelque chose de l'ordre d'une forme d'intelligence collective où il y aurait à minima de l'écoute. Ça ne se peut pas se passer
si ça passe par un commissariat, c'est qu'il y a eu des plaintes, c'est qu'il y a des gens qui se sont sentis blessés, agressés, menacés par des propos. Ils portent plainte. Alors ces plaignants-là, faut pas les écouter, faut leur dire bouf, votre plainte ne compte pas.
J'aimerais qu'on entende. C'est le début d'une procédure.
C'est une enquête pour vérifier.
J'aimerais qu'on entende là-dessus Richard Verdi sur la question de la liberté d'expression, parce que la France Insoumise a reçu le soutien notamment du président du groupe Horizon à l'Assemblée, qui a dit la chose suivante: même si je suis aux antipodes de la France Insoumise, je me battrai pour qu'ils puissent exprimer leurs idées. Est-ce que là on est allé trop loin, les parlementaires au commissariat?
Ce qui est certain, avant de venir sur ce plateau, j'ai regardé par exemple les débats en Espagne, j'ai regardé les débats en Irlande. Je cite ces deux pays parce que c'est deux pays qui envisagent de reconnaître l'État de Palestine en ce moment, et vous savez que la question est posée même au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas eu d'élus, de députés qui soient convoqués de cette manière devant la police, alors qu'il y a eu des propos beaucoup plus problématiques, si on estime qu'ils sont problématiques, vis-à-vis du Hamas. Donc je crois que oui, vu de l'étranger, vu d'autres pays européens, ce raidissement, ça apparaît comme un raidissement des autorités françaises, comme une nervosité. On peut aussi citer par exemple la phrase où Gabriel Attal, à propos des manifestations étudiantes, a parlé de cette idéologie importée d'outre-Atlantique. C'est quelque chose qu'on n'a pas entendu ailleurs en Europe. Donc on a quand même le sentiment que les autorités françaises, au pluriel, eh bien, sont soit très inquiètes, d'où ce raidissement, soit par anticipation, cherchent à diriger le débat ou à canaliser le débat. Or, dans une démocratie, me semble-t-il, le débat, il a lieu au Parlement et il n'a pas vocation à être canalisé.
Manuel Bompard, vous y voyez-vous derrière la main du gouvernement, c'est ça?
Ben, j'ai déjà répondu à votre question, mais je veux réagir quand même à ce qui a été dit sur le plateau. C'est stupéfiant. Maintenant, en quelque sorte, selon Monsieur Barbier, on devrait remercier Monsieur Dupond-Moretti de nous convoquer ou d'avoir demandé au procureur de la République de donner suite aux plaintes qui ont été déposées pour pouvoir venir s'expliquer devant les commissariats. Mais vous, Monsieur Barbier, vous pouvez tenir des propos à longueur de journée à la télévision. Personne ne vous demande d'aller vous expliquer devant un commissariat. J'ai pas besoin d'aller devant un commissariat pour expliquer les positions qui sont les miennes. C'est le débat démocratique. Et ensuite, il y a des élections. C'est comme ça que ça fonctionne dans une démocratie.
Il n'y a pas eu de plainte contre les propos de Christophe Barbier sur ce plateau.
Que répondre aux plaignants? Vous les entendez, ces plaignants, que leur répondre?
Heureusement qu'à chaque fois qu'il y a un dépôt de plainte, ça ne se traduit pas immédiatement par le fait qu'on va auditionner les personnes qui sont victimes de cette plainte. Parce que moi, je peux tout à fait demain déposer une plainte contre vous pour avoir contesté le fait qu'il existait une colonisation en Cisjordanie. Et si ça devait être le cas, peut-être que vous ne seriez pas auditionné parce que le procureur de la République peut décider tout simplement que cette plainte est sans objet et sans effet. S'il y a des auditions, c'est bien qu'il y a une décision d'un procureur pour que ces auditions aient lieu. Toutes les les plaintes ne donnent pas forcément lieu à une convocation devant le commissariat. Monsieur Barbier, ne faites pas comme si vous ne le savez pas. Pour le reste, ce qui on a, il n'y a pas de problème à avoir ce débat de manière apaisée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté très claire, avec à l'initiative de laquelle il y a un certain nombre de lobbyistes pro-israéliens. C'est le cas des associations qui ont déposé plainte contre Mathilde Panot et contre Rima Hassan, parce que ils ne supportent pas qu'on puisse dire dans le débat public que les actions qui sont commises par Monsieur Netanyahou et l'armée israélienne aujourd'hui à Gaza sont des crimes de masse, des massacres horribles et qu'ils doivent s'arrêter immédiatement. Et le problème, il est là aujourd'hui, c'est que dès que des voix s'expriment pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, dès que des voix s'expriment pour demander la paix, il y a une tentative de les faire taire, par exemple en les menaçant sur les réseaux sociaux, j'en ai été victime, par exemple en déposant des plaintes et en faisant une forme d'harcèlement judiciaire, par exemple en venant pour essayer d'empêcher de tenir des réunions publiques, des conférences ou des meetings. Tout à l'heure, vous me disiez, la conférence, c'est normal, elle a été annulée parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public, la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Lille. Pardonnez-moi, quand Monsieur Macron fait une conférence à la Sorbonne la semaine dernière, il y a bien des manifestations qui s'organisent devant, et pourtant on est tout à fait capable de les sécuriser pour que Monsieur Macron puisse tenir sa conférence. Alors pourquoi ce qui est vrai pour Monsieur Macron ne l'est pas pour Monsieur Mélenchon ou pour Madame Rima Hassan?
Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Bompard, si vous deviez reformuler ce communiqué du 7 octobre...
Répondez à ma question, pour quelle raison?
Est-ce que aujourd'hui, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore président de la République, mais est-ce que vous reformuleriez votre communiqué du 7 octobre?
Donc le président de la République peut s'exprimer dans les conférences, mais pas ses opposants politiques?
Oui,
c'est ça que vous êtes en train de dire.
Et
vous trouvez que c'est un fonctionnement normal d'une démocratie dans une campagne électorale?
Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à Sciences Po, etc. Puis on l'entend beaucoup. Vous avez la parole, c'est très bien.
Mais pas à l'université.
Je voudrais revenir sur ce communiqué du 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre communiqué, Monsieur Bompard, plutôt que de dire force armée palestinienne, LFI écrirait groupe terroriste Hamas? Est-ce que vous le feriez, cela?
Mais monsieur, je ne vais pas réécrire le communiqué du 7 octobre et je ne suis pas là pour en répondre devant vous. Je vous dis simplement que les termes qu'il y a dans ce communiqué, que j'approuve totalement, ne sont pas des termes qui font de l'apologie du terrorisme, et qu'il est complètement hallucinant que ce communiqué, enfin je sais pas, que les gens qui sont sur votre plateau et les gens qui nous écoutent vont sans doute le lire, et que l'un d'entre eux me dise qu'il ne tombe pas de sa chaise pour qu'on considère que les propos qui sont les mots qui sont contenus dans ce communiqué font de l'apologie du terrorisme.
Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste, donc.
Terrorisme.
Mais vous ne diriez toujours
mais
pas que le Hamas
est un groupe
terroriste.
J'ai déjà répondu 15 fois à cette question. Moi, je vais vous dire, madame, je suis fatigué, mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises que le mode opératoire utilisé par le Hamas était un mode opératoire terroriste. Je n'ai aucune difficulté à le dire. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je vois bien qu'en vérité, il y a une tentative dans le débat public, une forme de paresse intellectuelle et une volonté en permanence de sauter d'une polémique à une autre sur les mots, les tweets, les phrases qui sont utilisées et qui ne sont pas utilisées pour faire en sorte qu'on ne parle pas du sujet principal. Et le sujet principal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes à Gaza sous les armes de l'armée israélienne. Qu'il y a une impuissance et une forme d'inaction totale des autorités, de la communauté internationale et du gouvernement français en particulier. Et que ça révolte des gens dans notre pays. Que ça révolte beaucoup de gens, que ça révolte des étudiants qui ont envie de se mobiliser. Et que quand ils se mobilisent, plutôt que d'essayer de les faire taire, de les réprimer, de les convoquer au commissariat, il faudrait plutôt essayer de les écouter et faire en sorte que la France, elle joue en son rôle, qu'elle agisse pour faire en sorte que ces massacres s'arrêtent le plus rapidement possible. Voilà, et on peut à la fois dire que les actions qui ont été commises le 7 octobre sont insupportables, et à la fois dire qu'ils ne peuvent en aucun cas justifier le fait qu'on tue des dizaines de milliers de personnes, plus de 10 000 enfants qui sont morts aujourd'hui à Gaza, et que la France doit faire beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais dès qu'on essaye de dire ça, on essaye de nous empêcher de le dire pour nous faire parler d'autre chose, nous demander de nous expliquer sur pourquoi on a utilisé tel mot, pas telle phrase ou pas tel mot. Et ben ça,
parce
c'est
que les mots sont également
sujet. On doit pouvoir dénoncer ce qui se passe là-bas.
Une question, et on va venir dans un instant à ce qui se passe dans les universités également, parce que ça se répand un petit peu, mais une question sur le timing. Effectivement, est-ce qu'il y avait urgence à les convoquer, aller à un mois maintenant des élections européennes? Est-ce que le timing n'est pas un peu surprenant, Christophe?
Il faudrait que la justice nous dise comment elle a procédé, c'est-à-dire quand les plaintes sont reçues assez vite, au mois d'octobre, est-ce qu'on convoque tout de suite, ou est-ce qu'on fait d'abord une exploration pour voir s'il y a matière à convoquer? C'est peut-être tout cela simplement que la justice a pu mettre en avant. Après, le timing, il est à la fois embêtant parce que ça tombe dans une campagne européenne, et en même temps ça permet à ceux qui font campagne de mettre en avant leurs arguments. Rima Hassan, depuis 3 semaines, est une figure connue de la France entière et elle peut développer ses arguments. Donc cette idée de la censure, de l'oppression, de la fin de la liberté d'expression, non. C'est quelque chose qui fonctionne comme un boomerang et celui qui s'en dit victime s'exprime plus que jamais.
Christophe,
tout simplement parce qu'on est dans une démocratie.
On a aussi, par exemple, des organisations internationales qui travaillent sur les questions de droits humains, notamment Amnesty International, qui a rendu son rapport le 24 avril dernier.
Très
et qui
contesté
a l'air...
comme rapport.
Bah, non, il est mais pas si, contesté. Si. Enfin, tout comme
tu parles d'un risque génocidaire.
Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la question de la liberté d'expression.
Oui, ça,
dans le rapport annuel, ils disent qu'ils alertent sur les risques d'entrave à la liberté d'expression et que cette question, en fait, de la nécessité de poser dans le débat public les choses, est-ce que ça doit passer par la justice ? Aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est les discours de haine, les discours xénophobes et voilà. Donc
la
là, cette question-là, évidemment, en fait, qu'elle doit être posée. Comment faire en sorte de ne pas entraver la liberté d'expression ? De surcroît, quand on est dans une parole politique, sinon, en fait, on va se retrouver avec le risque. C'est quoi ? C'est une police de la pensée. De surquoi, quand on est face à des élus ?
Si mais on est face à une flambée d'antisémites en France, comme on n'a pas connu depuis 1945.
Le droit, et je ne cautionne aucun acte antisémite.
Mais moi non plus.
Je dis simplement que M. Bompard n'a pas si tort que ça dans ce qu'il dit. J'explique. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans une affaire qui était l'affaire du Bataclan, où Jean-Marc Rouillot, qui est le cofondateur d'Action Directe, s'était exprimé en disant qu'il avait trouvé que les attaquants du Bataclan, terroristes, ils avaient qualifié d'attaquants, étaient très courageux. Il avait été condamné par la France à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois ferme. La Cour européenne des droits de l'homme a annulé cette décision et a condamné l'État français parce qu'elle a considéré que ses propos rentraient dans le cadre de la liberté d'expression. C'est vous dire si la Cour européenne des droits de l'homme va loin. Que là, moi qui ne cautionne absolument pas ce que disent ces députés LFI, je pense que ça ne relève pas du droit. Et ça ne relève pas du délit d'apologie du terrorisme, à mon sens, puisqu'on rentre dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous avez raison, ça relève d'un débat public, d'un débat à l'Assemblée nationale, et il est étonnant de se servir de la chose policière ou judiciaire pour effectivement interroger par la suite, c'est pas très démocratique, des personnes sur leurs idées qu'ils ont le droit d'avoir, puisque la Cour européenne des droits de l'homme le dit, y compris dans un débat public, puisqu'il faut une notion de publicité pour qu'il y ait apologie du terrorisme, qui peut déranger avec des mots qui peuvent être très désagréables à entendre, voire des idées qui peuvent être insupportables. Ça participe du pluralisme et de la liberté d'expression, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc ce que j'entends ne me plaît pas, ce que j'entends de ces députés, de ces candidats ne me plaît pas, mais je pense que c'est la liberté d'expression et ça rentre dans la droite ligne de cet arrêt de la Cour européenne.
Alors justement, poursuivons là-dessus, sur toujours au sujet bien sûr de Gaza, sur la mobilisation des étudiants. Ça se répand, on a parlé de la de Sciences Po, de la Sorbonne hier avec ces évacuations par les policiers. Il y a eu d'autres manifestations encore aujourd'hui. Vous dites, Richard Verdi, ces manifestations-là, pour vous, elles sont parfaitement légitimes et on va trop loin en voulant y mettre fin.
Alors, la Sorbonne, je n'y suis pas allé. Il se trouve que vendredi dernier, j'ai passé un moment à Sciences Po. C'était donc avant la négociation qui a conduit à l'évacuation tranquille, normale, de Sciences Po. Alors qu'à la Sorbonne, il y avait volonté de s'implanter, de mettre des tentes à l'intérieur de l'université. Et la police est intervenue. Ce que je dis, c'est qu'il y a une colère étudiante. C'est incontestable. Elle est en France d'ailleurs plutôt calme, on va dire, comparé à ce que aux scènes qu'on voit aux États-Unis, où ça commence à devenir très brutal dans certaines universités. Et on peut la regarder, on peut la voir aussi dans d'autres universités européennes. Et à partir du moment où vous avez une telle colère, une colère que dans un éditorial, j'ai même assimilé à la colère qu'on voyait autour du Vietnam dans les années 60, je pense que la diaboliser, c'est-à-dire diaboliser cette colère en accusant immédiatement les étudiants d'être des extrémistes ou des négationnistes parce qu'ils utilisent des termes très durs et des termes qu'on peut contester, je trouve que c'est très dangereux. Donc voilà, je pense que la colère de la jeunesse, il y a une forme d'intelligence de la jeunesse étudiante, elle l'a montré au fil des décennies, et aujourd'hui il y a une clairvoyance, il y a une prise en compte d'une inégalité. La cause palestinienne qui est revenue à la surface, elle a quand même été oubliée pendant très longtemps, elle est revenue à la surface pas seulement parce qu'elle est la cause palestinienne, pas seulement parce qu'elle met en cause Israël, mais aussi parce qu'elle est perçue comme la pire des inégalités, c'est-à-dire une population civile dans un territoire très exigu qui est soumis à une puissance de feu absolument inégalée. Donc je crois qu'il faut prendre ces éléments en compte pour apprécier la colère et l'indignation étudiante.
Vous faites belle défense. Une moue, Christophe.
Mais c'est vrai que de tout temps, la jeunesse a eu des emballements idéologiques qui sont le propre de cet âge de la vie. Et quand vous parlez d'intelligence de la jeunesse, est-ce que c'est l'intelligence de ceux qui, en 1950, nous disaient « Staline est un génie », qui, en 1968, « Mao est le phare du genre humain », en 1972, « Pol Pot est un bienfaiteur de l'humanité », et
que
plus récemment, « Castro », etc.
Beaucoup de ceux-là, aujourd'hui, sont devenus des patrons du CAC 40
en France. Oui, exactement. Donc, voilà.
C'est pour ça que
le terme d'intelligence de la jeunesse me semblait un peu
Peut-être qu'à ce moment-là aussi, dans ces années-là, par exemple, la cause du Vietnam, dont on sait aujourd'hui que c'est un pays communiste qui emprisonne les journalistes, la cause du Vietnam n'en était pas moins juste à l'époque. La cause du Vietnam indépendant, la cause de la décolonisation était une cause juste.
Mais comment est-ce qu'on peut, à un moment, parler d'emballement de la jeunesse dans une forme, en fait, de condescendance de la part de quelqu'un qu'on pourrait qualifier de boomer, mon cher Christophe?
Non, mais pas, avec pas tout... de condescendance,
non,
c'est
mais
bien.
Si, non, non,
c'est
mais si,
bien une jeunesse active.
Là, moi,
c'est
ce
pas
que
celle
trouve...
des écrans dont
non,
on parlait tout à l'heure.
Et là, pour le coup, enfin, voilà, on a une jeunesse qui se conscientise, oui, qui pose, en fait, la question du double standard. On est dans une autre guerre en Ukraine et, en tant qu'Européens, on est évidemment touchés par cette guerre. On a une jeunesse qui avait déjà été percutée par l'arrivée des migrants syriens qui voient aujourd'hui des gens se noyer en Méditerranée et qui disent « Stop, comment est-ce que dans un monde et dans des institutions telles que la Sorbonne, telles que les instituts d'études politiques ou Sciences Po, la question des valeurs humaines, la question de l'égalité, elle est absolument centrale. Poser juste le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à l'autodétermination. »
Mais quand ça se conclut par la Palestine du Jourdain à la mer, c'est-à-dire on efface Israël, quand ça se conclut par c'est un génocide alors que c'est une notion beaucoup plus complexe que cela, quand certains vont jusqu'à dire que les Juifs sont devenus les nazis d'aujourd'hui, c'est une erreur.
Alors là, je pense que vous essentialisez aussi une partie.
Ça, c'est quelques dérapages.
Attention, si on sort avec les mains rougies, qui est un hommage aux meurtres commis à Ramallah,
Non, les mains rouges, ça a été utilisé depuis les années 60, bien avant. Enfin, attention à ne pas faire de raccourci. Là aussi, n'essentialisons pas une jeunesse qui est
protéiforme. L'image de Ramallah.
Mais à un moment, cette image, ces mains rouges, existe depuis bien avant.
Au-delà des dérapages, la mobilisation, elle est légitime.
Qu'une jeunesse se conscientise, comme dit Nora, et participe à l'évolution politique de l'Occident.
Mais sur cette question-là,
je m'en réjouis. Attendez, cette question-là, qui est au cœur de l'actualité, soit dans leur de mobilisation, d'accord, mais j'aimerais les entendre sur l'Iran, un peu.
Attendez.
Les yézidis, pas beaucoup. Au Soudan, en Éthiopie,
pourquoi
ailleurs, personne.
Non, mais attendez.
Mais c'est pas une concurrence.
Nora et Christophe,
c'est pas cette exclusivité.
Pourquoi cette exclusivité? C'est qu'en fait, là, on est dans une actualité qui fait que 40 000 morts.
Vous oubliez un élément essentiel.
34 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.
Cette conscientisation, cette mobilisation, pour respectable qu'elle soit, et la jeunesse a toujours eu un mouvement de spontanéité, tout dépend de son niveau culturel d'information et de sa capacité de prendre du recul. Le poids des réseaux sociaux, avec la masse des mensonges et des contre-vérités qui y sont professés, pollue évidemment la prise de conscience de la jeunesse. C'est tragique. Au moins, on n'avait pas, au moins 50, alors, 72, 68, on n'avait pas les réseaux sociaux.
Richard Verny, un bilan qui est bien supérieur à ce que le Hamas, en fait,
c'est
cause.
C'est catastrophique.
Les
cerveaux sont lavés aujourd'hui.
Si je peux me permettre, oui, mais parce que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a quand même maintenant une diffusion, certes, vous avez raison, de beaucoup d'informations fausses ou manipulées, mais il y a aussi diffusion d'informations qu'on ne voit pas ici. Prenez par exemple un exemple. Qu'est-ce que vous voyez défiler sur les portables des manifestants à Sciences Po? C'est pour beaucoup des images d'Al Jazeera. Al Jazeera, on peut en penser ce qu'on veut, c'est une chaîne aux mains du Qatar, puisque c'est la chaîne du Qatar, mais de fait, elle a des équipes sur place depuis le début, elle a des journalistes qui ont été tués, et les images qu'elle montre sont des images réelles, qui très souvent ne le sont pas par les chaînes occidentales. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose.
Richard Verly, vous dites vrai, mais sauf que le vrai côtoie le faux. Sur une vraie information,
Et vous pensez que dans les années 60, le vrai ne continue...
Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et le vrai côtoyait le faux. Mais là, ils ont en masse, à échelle mondiale, en continu et sur un flot permanent, le faux qui côtoie le vrai. Quelle capacité ont-ils de discernement entre ce qui est vraiment vrai et ce qui est vraiment faux?
J'espère que les étudiants de Sciences Po ont une certaine capacité de discernement.
Ils ne semblent pas toujours qu'ils l'aient.
Mais qu'est-ce que vous dites, Richard Verly, à l'argument de Christophe, qui dit oui, mais alors pourquoi ils se mobilisent pas, par exemple, dimanche, Place de la République, pour soutenir ce rappeur iranien condamné à mort, par exemple?
Alors, je pense que Christophe a raison. Il y a des causes, mais ça a toujours été comme ça. Il y a des clauses qui enflamment l'opinion de la jeunesse, sans doute parce qu'elles sont attisées par certains médias, par certains réseaux, mais ça a toujours été comme ça. Et il y en a d'autres qui sont ignorées. Donc, le travail de la presse, en l'occurrence, et le travail d'éditorialiste de talent comme Christophe Barbier, c'est de le rappeler. Mais on ne peut pas reprocher aux jeunes de s'accaparer certains combats, parce qu'il y a aussi des combats plus symboliques que d'autres. Par exemple, vous prenez l'exemple du Soudan. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment au Soudan est absolument dramatique, mais c'est une guerre civile entre deux factions dirigées chacun par des généraux. Donc on n'est pas du tout dans le même cadre que la guerre entre Israël et le Hamas qui se déroule à Gaza. Donc il y a des moments symboliques, il y a des causes plus symboliques que d'autres, les médias y participent aussi. Si on parlait plus souvent du Soudan dans les médias, évidemment, peut-être que les manifestants s'en occuperaient davantage. Donc nous avons, nous aussi, les médias, une responsabilité parce que nous forgeons aussi l'opinion de cette jeunesse.
Donc ils sont influencés, vous reconnaissez qu'ils sont influencés.
Non, mais en l'occurrence, là, c'est bien influencé.
La preuve, c'est que ce soir, on ne parle pas du tout du Soudan non plus.
Voilà. Non, bien sûr. Non, mais on va parler de l'Iran, d'ailleurs, dans un instant.
Ça, c'est bien.
Un dernier mot là-dessus, ça va se répandre, selon vous ? Les mouvements dans les facs ?
Oui, oui, parce qu'il faut que cette guerre se termine, parce qu'une guerre, c'est horrible. Et pour que cette guerre se termine très vite, il y a une solution très simple. Le Hamas libère les otages et sort les mains en l'air des tunnels en disant « on se rend, on est des terroristes, on se rend ». En l'occurrence, ils se rendront à une démocratie qui ne va pas les exécuter, qui va les mettre devant un tribunal démocratique. Ils vont être jugés avec des avocats. Elle est là, la solution pour que cette guerre s'arrête.
Et je n'entends pas Sciences Po. Et on évacue le gouvernement Netanyahou et on remplace par un autre gouvernement.
Ça sera juste après,
et
ça c'est sûr.
Et on réentend la procédure de double état. Parce que ça sera quand même la dernière et seule solution.
Mais je n'entends pas à Sciences Po des gens dire « Sortez des tunnels, rendez-vous, vous êtes des terroristes ». Je ne l'entends pas.
Voilà. Aussi,
j'entends libérer les otages,
mais j'entends pas rendez-vous. Il y a aussi la nécessité pour l'Europe, pour les organisations internationales, de stopper cette guerre. Voilà, on a aussi la possibilité à un moment de dire « Allez hop, stop ». On arrête, on ne vend plus d'armes et c'est terminé. Donc là, on attend aussi de la part des États-Unis, de la part des Européens qui ont la capacité.
Et de l'Iran qui a formé et financé le Hamas.
Les premiers partenaires et d'Israël et des territoires palestiniens de dire à un moment, voilà, on veut une possibilité en fait d'en sortir. Donc voilà, par la diplomatie, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. En l'état aujourd'hui,
et
on n'a pas avancé.
Qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine ?
Alors ça, justement,
c'est libérons les Palestiniens du Hamas. Pas seulement, parce qu'il y a leur situation, mais du Hamas. Voilà.
Merci à tous.